6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et comme tous les vendredis, nous retrouvons notre camarade Lionel Nakache. Bonjour Lionel.
Bonjour Guillaume.
Le neurologue que vous êtes va nous parler du simple et du complexe, car c'est une série de chroniques que vous voulez entamer aujourd'hui.
Absolument Guillaume. Alors mon point de départ est une question classique. Sommes-nous capables de penser la complexité du monde avec nos capacités intellectuelles limitées? Et si tel n'était pas le cas, nos échecs à penser cette complexité, et surtout les conséquences de ces échecs, c'est-à-dire leurs effets sur nos opinions, nos croyances, nos fabulations, dirait Nancy Houston, nos engagements, nos actions, nos décisions, nos jugements. Bref, tous ces échecs à penser la complexité contribueraient-ils à aggraver la situation et à amenuiser un peu plus encore nos chances d'y parvenir?
Bon, mais Lionel, nos capacités cognitives sont-elles vraiment si limitées?
Eh bien, les sciences cognitives ont permis de formaliser les limites universelles de notre conscience. Nous ne manipulons consciemment qu'un seul objet mental à la fois, celui qu'à chaque instant nous pouvons nous rapporter à nous-mêmes, sur un mode sériel et lent, et au prix d'un effort cognitif. Effectuer par exemple une soustraction aussi simple que 11-3 nous demande environ une seconde, ce qui est très long. Nous ne pouvons stocker en mémoire de travail consciente qu'un nombre très limité d'objets, environ 4 à 5, telle est notre condition d'Einstein à Marie Curie, en passant par chacun d'entre nous. Notre qualificatif auto-délivré d'Homo sapiens relève-t-il donc d'un réflexe narcissique désespéré qui en appellerait à une pensée positive prétentieuse qui se révélerait performative, ou renferme-t-il une once de vérité? Et loin de constituer un symptôme névrotique et spéculatif, cette question conditionne notre rapport aux affaires du monde. Des affaires du monde qui, chaque jour, transforment un peu plus cette question en obsession brûlante et urgente. Sommes-nous simplement capables de penser d'une manière adéquate cette complexité du monde?
Bon, alors est-ce qu'il nous faudrait, Lionel, par exemple, dès à présent, renoncer à appréhender le complexe, par exemple remplacer, je ne sais pas moi, les cogitations des matins de culture par de la musique?
Eh bien non, Guillaume, rassurez-vous, je ne crois pas, car si j'ai commencé par énoncer ces limites, je n'ai pas encore introduit les autres composantes clés de notre cognition. Tout d'abord, notre conscience permet de mettre en relation une information donnée avec tout ce que nous savons par ailleurs. On parle d'accessibilité cognitive. Avec à la clé cette capacité à inventer des relations inédites, parfois fécondes, entre des connaissances distantes. D'autre part, consciemment, nous pouvons inhiber des pensées qui vont de soi, nos automatismes de l'esprit, nos réflexes mentaux. La célèbre formule de Camus dans Le Premier Homme, « Un homme, ça s'empêche », doit être précisée, « Un homme conscient, ça s'empêche ». Enfin, lorsque nous manipulons consciemment un objet mental, nous pouvons le garder à l'esprit aussi longtemps que nous le désirons. Autrement dit, notre pensée peut alors échapper à l'évanescence et aux contingences de l'immédiateté.
Je remarque, Lionel, que depuis le début, vous ne parlez que de notre conscience.
Bien vu, Guillaume, car la conscience n'est qu'une fraction de notre cognition. L'essentiel de notre vie mentale n'est pas consciente, au sens descriptif et non psychanalytique du terme. Et il existe une complémentarité entre ces deux secteurs de notre vie mentale. Les opérations inconscientes sont très nombreuses et rapides. Elles opèrent en parallèle les unes des autres et disposent de capacités de calcul autrement plus riches que notre espace conscient unifié, lent et sériel. Leur point faible, elles sont évanescentes, sectorisées et incapables d'inhibition ou de contrôle stratégique. Et s'il existe évidemment des influences, des processus inconscients sur notre conscience, j'ai démontré avec d'autres chercheurs que la réciproque est fondamentale. Nombre de nos processus inconscients sont sous l'influence de notre posture consciente. Et ces échanges entre conscience et inconscience sont également la source de nos intuitions et de notre créativité. Alors au final, nous ne manipulons que peu d'objets consciemment, sur un mode lent et sériel, mais chacun d'entre eux peut être rendu de plus en plus complexe grâce à ces interactions conscient-non-conscient. Vous voyez, Guillaume, la partie n'est pas perdue d'avance. Nous ressemblons un peu à Rocky Balboa, boxeur cabossé, pataud et limité, mais qui peut oser relever le défi de la complexité du monde.
Merci beaucoup, Lionel Nakache. 8h sur France Culture. Le